Aujourd'hui, nous accueillons M. Bertrand Barré, qui est de formation ingénieur des mines de Nancy, qui est titulaire d'un DEA en physique du solide. Il entre en 1967 au CEA, et puis il travaille donc au CEA. Il a notamment travaillé en Grande-Bretagne et aux États-Unis, toujours pour le CEA. De 1994 à 1999, il a été membre de la direction des réacteurs nucléaires du commissariat à l'énergie atomique, donc au CEA. Et depuis 1999, il est directeur de la recherche et du développement de la Compagnie générale des matières nucléaires, ou COGEMA. D'autre part, il est professeur à l'Institut national des sciences et techniques nucléaires. Il est aussi membre du Conseil supérieur de la recherche et de la technologie, ou CSRT. Et enfin, il est membre du Conseil scientifique et technique d'Euratom. Voilà, je vous remercie et je lui laisse la parole.
Bien, bonsoir et merci. L'énergie nucléaire, c'est un assez vaste sujet. Je pense que vous connaissez tous la parabole des aveugles et de l'éléphant. Vous savez, on demande à des aveugles de décrire un éléphant. Alors, celui qui tâte la trompe dit « c'est une espèce de serpent ». Celui qui touche la patte dit « c'est un espèce de tronc rugueux ». Celui qui touche la queue dit « c'est un chasse-mouche ». Ben, je vais un peu essayer de vous présenter divers aspects de l'énergie nucléaire et puis ce sera à vous de reconstruire l'éléphant dans vos têtes et de vous faire votre propre idée. Je vais donc couvrir de quoi s'agit-il, à quoi ça sert, comment ça marche. Ensuite, j'essaierai de vous faire mon bilan à moi sur les avantages et les inconvénients de ce type d'énergie par rapport aux autres. Et je terminerai sur, alors ce sera rapide, un bilan de 45 années d'énergie nucléaire et quelques perspectives. Donc, de quoi s'agit-il ? Eh bien, ça dépend à qui on s'adresse. Pour le physicien, l'énergie nucléaire, c'est l'énergie qui maintient ensemble les différents composants du noyau des atomes, neutrons et protons, qui autrement ne pensent qu'à se repousser puisque tous les protons ont la même charge électrique. Pour le géographe, c'est dans le fond la seule énergie nouvelle qu'on ait découvert au cours du XXe siècle. Et ça tombe bien parce que c'est un moment où les besoins d'énergie du monde augmentent pas mal. Pour l'ingénieur, c'est une façon un peu compliquée de faire de l'électricité pour pas trop cher. Alors comme je dis pour pas trop cher, pour l'économiste, c'est plutôt une façon de stabiliser les coûts de l'énergie, de les rendre un peu indépendants des variations très erratiques des matières premières. Et puis c'est aussi une façon d'améliorer la balance des paiements. Pour le sociologue, d'ailleurs j'ai fait un petit dessin pour ça, c'est un des sujets qui cristallise un peu la contestation de certains aspects des sociétés occidentales industrialisées. Et puis, j'ai vu que la dernière conférence de l'Université de tous les savoirs a été faite par un poète. Pour un poète, l'énergie nucléaire, c'est une parcelle de l'énergie cosmique, si vous voulez, parce que l'uranium, comme tous les noyaux lourds, c'est un souvenir que nous ont envoyé des anciennes supernovae. Alors je vais revenir un petit peu plus sur la question du physicien, après tout on est dans une université. Mais on ne va pas aller très très loin. Donc vous savez que la matière est formée d'atomes, en général assemblés en molécules, que dans ces atomes eux-mêmes sont formés de vide pour l'essentiel, avec un tout petit noyau au centre, et puis des nuages d'électrons qui gravitent autour, et que le noyau lui-même est formé par un assemblage donc, de nucléons, de protons qui sont chargés positivement, de neutrons qui ne sont pas chargés, qui ont à peu près la même masse, et toute la masse de la matière est rassemblée dans ce petit noyau au milieu de rien. L'énergie nucléaire, qui a un rayon d'action très faible, est en revanche très importante, c'est elle qui maintient ensemble les différents composants du noyau. Autrement, les protons se repousseraient mutuellement parce que l'énergie électromagnétique a un rayon d'action plus grand. Cette énergie de liaison, en fait, dans les noyaux qui existent dans la nature, elle varie suivant la masse du noyau. Et donc, sur la courbe que vous avez là, vous avez tous les noyaux qu'on trouve dans la nature, depuis le deutérium, parce que parler de l'énergie de liaison de 1, ça n'a pas beaucoup de sens, jusqu'à l'uranium, donc jusqu'aux environs 238, et vous voyez que cette courbe passe par un maximum. C'est-à-dire que quand on est dans cette région, c'est la région de masse atomique 60, vous voulez faire cobalt, nickel, c'est là où il y a les noyaux les plus stables possibles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous êtes capable de faire fusionner des noyaux légers pour faire des noyaux plus lourds dans cette partie-là de la région, eh bien vous dégagez de l'énergie, c'est l'énergie de fusion. Et à l'autre bout de la courbe, si vous êtes capable de casser des noyaux très lourds en des morceaux plus légers, vous dégagez également de l'énergie, c'est la zone de l'énergie de fusion. Bon, je parle un petit peu de la fusion parce que je n'en parlerai pas dans le reste de l'exposé. Donc c'est cette fusion, le fait de prendre des noyaux légers et d'en faire des noyaux plus lourds, c'est de cette façon que les étoiles dégagent de l'énergie et la rayonnent vers nous. Ça n'est pas très facile parce que les noyaux, je vous l'ai dit, sont chargés positivement et donc ils se repoussent. Alors dans les étoiles, la façon de les écraser les uns contre les autres, c'est uniquement par la gravitation. Les étoiles ont des masses énormes, on écrase des noyaux, puis ils finissent par entrer en réaction. Vous avez deux noyaux de deutérium qui vous font un noyau d'hélium. Puis quand vous avez épuisé un peu votre hydrogène, vous aurez de l'hélium qui fusionnera pour faire du carbone, etc., etc. En revanche, vous voyez, on ne dépassera pas de cette façon le fer, qui est le noyau le plus stable. Et c'est pour ça que finalement, les noyaux plus lourds qu'on trouve, ils n'ont pas été faits dans des réactions normales de fusion, parce qu'ils ont un surplus d'énergie considérable, et la seule explication qu'on ait, c'est qu'effectivement, ils se sont produits lors de ces cataclysmes que sont les explosions de supernovae, où il y a des libérations d'énergie tellement intenses qu'on arrive à fabriquer ces choses exotiques qui dépassent les noyaux stables. Et on en fabrique bien au-delà de l'uranium, mais ils sont radioactifs, donc sur Terre, l'uranium est le dernier noyau lourd naturel qui nous reste. On essaye bien sûr depuis à peu près 40 ans de faire de la fusion sur Terre, où on n'a pas la gravité pour nous aider. Donc on a mis au point des dispositifs compliqués pour essayer de maintenir quand même, de rapprocher ces noyaux qui se repoussent. Ça fait 40 ans qu'on essaye de le faire. On a fait énormément de progrès dans la physique des plasmas, mais aujourd'hui, on n'en est pas encore à avoir réussi un prototype de réacteur à fusion nucléaire contrôlée. Et c'est pour ça que j'en parlerai plus, parce que même si on réussissait dans 20 ou 30 ans, avant que ce soit une source d'énergie proprement dite, ça nous mène vraiment très très loin. Donc c'est à la fois un espoir d'énergie considérable, mais ça n'est pas pour demain. Je vais donc passer à la fission, qui elle est l'énergie nucléaire de tous les jours. Alors la fission est possible avec les noyaux lourds, avec un certain nombre de noyaux lourds, et parce qu'on a trouvé le projectile qui marchait bien. Ça date de... Le projectile, on l'a trouvé en 1932, quand Cockcroft a découvert... Pardon, Chadwick a découvert le neutron. Mais ce n'est qu'au tournant de 38-39 qu'en bombardant avec des neutrons de l'uranium, on s'est rendu compte qu'on produisait toute une espèce de zoologie de corps divers. Et là, c'est l'équipe allemande de Anne Streismann et Lise Meitner qui ont interprété ça correctement en disant le neutron donc, qui pénètre le noyau, puisque lui n'est pas chargé, donc il n'est pas repoussé par le noyau, le casse en deux morceaux. Et puis alors la chose importante, si je peux dire, c'est que quelques mois après, l'équipe française donc de Frédéric Joliot a découvert que non seulement on casse un noyau lourd en deux morceaux en libérant beaucoup d'énergie, mais que on émet aussi des nouveaux neutrons, environ 2,5 par fission. Et alors à ce moment-là, c'est très important parce que d'une part, ça permet de passer d'une fission à l'autre, de propager une réaction en chaîne, et d'autre part, une partie de ces neutrons sont aussi utilisés pour transformer en noyaux fissiles d'autres noyaux lourds qui ne sont pas directement fissiles, mais qui ont la capacité d'absorber un neutron et de devenir fissiles. C'est important parce que le seul noyau fissile qu'on trouve dans la nature, c'est l'uranium-235, qui représente moins de 1% de l'uranium naturel. 99,3% c'est de l'uranium-238, qui n'est pas fissile par les neutrons lents. Mais en revanche, s'il capture un neutron, il se transforme en plutonium qui, lui, est fissile. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre de la réaction de fission? Elle libère une énergie considérable. l'énergie de liaison atomique par rapport à l'énergie chimique, vous avez à un facteur 1 million. 1 million, c'est considérable. C'est ça qui explique que la fission de 1 gramme de plutonium, par exemple, produit plus d'énergie que la combustion de 1 tonne de pétrole. Ce facteur 1 million, on le retrouvera d'ailleurs à l'autre bout de la chaîne quand on parlera des déchets. C'est 1 million partout. Autre caractéristique, celle-là est moins sympathique, les deux morceaux résiduels de la fission, ils ne sont pas stables, ils sont radioactifs, et ils se désintègrent dans toute une série de réactions, les uns dans les autres, et ça a deux conséquences. Bon, la première, qui est la plus connue, c'est que ça fait des déchets radioactifs, et bien sûr, on va en parler après. La deuxième, qui est peut-être moins évidente, mais qui est, dans le fond, le problème vraiment spécifique de quelqu'un qui doit faire un réacteur nucléaire, c'est que quand vous arrêtez la fission, vous n'arrêtez pas le dégagement de chaleur, parce que les morceaux de la fission sont radioactifs et ils dégagent de la chaleur en se désactivant. Et donc, il faut que votre réacteur soit capable de continuer à se refroidir, même quand vous avez arrêté toute réaction de fission. Ce qu'on appelle la chaleur résiduelle, et je vous dis, c'est quelque chose de très particulier. Alors, la fission, sous quelle forme elle libère de l'énergie ? Eh bien, les deux morceaux, les deux fragments de fission, comme on les appelle, sont éjectés avec très grande vitesse. Et ensuite, quand ils se ralentissent au sein du combustible, cette énergie cinétique se transforme en énergie thermique. Et c'est donc de la chaleur qu'on récupère pour l'essentiel. Enfin, et j'y reviendrai, ce n'est pas si simple de faire de la fission. Il faut tout un cycle pour faire un combustible fissile. Donc, vous pouvez me dire deux choses. Finalement, l'énergie nucléaire, c'est assez compliqué et ça produit des déchets radioactifs. La question est tout de suite, donc, pourquoi on en fait ? Et donc, j'en arrive à quoi ça sert. Et pour ça, on n'en fait pas pour le plaisir. On n'en fait pas pour avoir des prix Nobel. Ça fait bien 50 ans qu'il n'y a pas eu de prix Nobel pour la fission. On en fait parce qu'on a besoin de l'énergie. Et alors là, si vous voulez, je quitte le domaine du physicien pour passer à celui du géographe ou de l'historien. Tout au long de l'histoire de l'humanité, la civilisation s'est accompagnée d'un usage de plus important d'énergie par les individus. Alors je ne suis pas en train de dire que c'est l'énergie qui a permis le développement, mais je dis, les deux ont évolué ensemble. Donc si on prend une unité commode, c'est-à-dire toutes les formes d'énergie, on les transforme comme si c'était du pétrole. C'est la TEP, ça veut dire la tonne d'équivalent pétrole. Eh bien, l'homme de Cro-Magnon, donc, qui savait en gros faire que du feu, utilisait environ 0,2 TEP par an. Puis ensuite, avec la découverte de la sédentarisation, de l'agriculture, on est passé à environ 0,4 TEP par an. C'est encore, vous allez le voir, le niveau de de pas mal de pays dans le monde. Puis petit à petit, vous voyez que ça monte, vous avez la révolution industrielle. Et au XXe siècle, la moyenne des pays industrialisés, c'est aux environs de 3 ou 4 tonnes d'équivalent pétrole par personne et par an. Et en ce qui concerne l'Amérique du Nord, par exemple, ça monte jusqu'à 8. Et une autre façon de présenter les choses, si vous voulez, dans la Rome antique, l'essentiel de l'énergie, elle venait du travail des esclaves. Bon, une famille patricienne avait jusqu'à 4 esclaves par personne de la maisonnée, et c'était déjà bien. Eh bien, nous, vous, en équivalent esclave, on en a une bonne trentaine. Les Américains en ont plus de 50. Donc, vous voyez, et quand je dis nous, ça veut dire nous tous. On est tous riches comme Crésus. Donc, seulement, c'est pas vrai de tout le monde. Et j'en arrive un peu à comment ça se répartit dans l'humanité. Quelques chiffres, mais vous savez, ne retenez que les ordres de grandeur. Donc vous avez, en l'année 90, toujours dans la même unité, c'est-à-dire en transformant en pétrole toutes les formes d'énergie utilisées, vous voyez que le monde, qui à l'époque était seulement de 5,3 milliards de personnes, c'est il y a 10 ans, maintenant on est 6, a consommé de l'ordre de 8,7 milliards de tonnes d'équivalent pétrole. Ce qui revient à dire à peu près une tonne et demie par habitant de la planète et par an. Mais vous voyez que ça varie assez considérablement, puisque tout ce qui est Asie du Sud aggloméré, eh bien, c'est 0,4, c'est-à-dire c'était à peu près le niveau où étaient les Sumériens. Et vous voyez que toute l'Amérique du Nord agglomérée, c'est aux environs de 8. C'est de toute évidence un certain scandale et une très grande force de déséquilibre sur cette planète. Il est évident que les pays qui, à l'heure actuelle, sont dans la zone moins de 1 tonne par an ont des besoins d'énergie qui vont croître et qu'il est hors de question de leur refuser. On peut dire à l'autre extrémité que le niveau de 8 est probablement large, voire excessif, et qu'on peut faire quelques économies de ce côté-là. Je vous rappelle qu'un Américain utilise par année 2 fois plus d'énergie qu'un Européen, ça n'est pas pour correspondre à un niveau de vie double. C'est un niveau de vie un peu plus élevé, mais pas double. Alors ça, c'était la situation en 90. J'ai pris 90 aussi parce que c'est l'année de référence pour tous les accords de Kyoto sur les gaz à effet de serre, dont on reparlera également. Et il faut voir que le fait d'être 6 milliards d'hommes, c'est tout récent. En 1830, on était à seulement 1 milliard. Bon, 1830, j'ai vérifié, c'est la date de naissance de mon arrière-grand-père. C'est donc vieux, mais pas très très vieux. Et aujourd'hui, on est 6 milliards. On ne terminera pas le siècle sans être aux environs de 10 milliards. Bon, la démographie n'est pas une science tout à fait exacte, mais on ne se trompe pas de beaucoup. Et sur cette courbe-là, je ne sais pas si ça se voit très bien, si, pas si mal que ça après tout, on voit que les pays de l'OCDE ont déjà à peu près saturé leur population, il n'y aura pas beaucoup de croissance. Ce qu'on appelle les pays d'économie en transition, c'est-à-dire en fait l'ancien bloc soviétique, c'est pareil, il est aussi relativement stabilisé, en tout cas à partir de 2000. Toute la croissance va se faire dans ces pays qui aujourd'hui consomment peu d'énergie, qui ont droit d'en consommer plus, et donc les besoins d'énergie de l'humanité vont être encore plus grands, vont avoir une croissance supérieure à celle de la démographie. Et ça, je crois que c'est très important à voir. Et donc, pourquoi on fait de l'énergie nucléaire ? Eh bien, c'est pour ça. Et pour vous donner une vision un peu simpliste, mais qui n'est pas importante, dans la première moitié du XXIe siècle, on sera de l'ordre de 10 milliards d'êtres humains sur la planète, et on aura besoin, toutes énergies confondues, de l'équivalent de 15 milliards de tonnes de pétrole chaque année. Ben, ce ne sera pas si facile que ça, même si on met en œuvre tout ce qu'on sait faire. On aura besoin du charbon. Le charbon est sale, etc. etc. Bon, on ne s'en passera pas, c'est les ressources les plus importantes. Je crois que ce sera un des sujets de la conférence de demain. Simplement, probablement, il faudra mettre en œuvre des mesures particulières de blocage du CO2 dans les centrales à charbon. On ne se passera évidemment pas de pétrole. Pour l'instant, c'est l'essentiel des transports repose là-dessus. Le gaz est en forte croissance présentement. On ne se passera pas de l'hydroélectricité, mais encore faut-il que les barrages ne soient pas trop loin des lieux de consommation. Les énergies nouvelles sont appelées à un essor tout à fait sérieux, mais elles ne peuvent pas remplacer tout. En particulier, elles sont intermittentes, donc c'est difficile de fonder toute l'économie d'un pays sur quelque chose qui marche quand le soleil brille et qui s'arrête quand le soleil est la nuit. Et donc, même avec tout ça, ce sera difficile. Le nucléaire est indispensable. Sinon, il n'y aura pas de développement durable, il n'y aura peut-être même pas de développement du tout. Alors, j'ai parlé de l'ensemble du monde, je vais peut-être faire un petit zoom sur la France. Donc, vous voyez que la France, c'est un pays agréable, tempéré, riche, avec une bonne agriculture, des traditions culturelles, de la gastronomie, des industries de luxe. Mais en matière de ressources énergétiques, on n'est pas gâté. Notre population, c'est 1% de la population du monde. Il faut se le rappeler de temps en temps, ça rend modeste. Notre consommation, c'est 2,6% de la consommation du monde. On est dans les énergies voraces, hein, quand même. Notre production, c'est seulement la moitié de notre consommation. Donc, on importe la moitié de l'énergie qu'on utilise. Et vous voyez que nos réserves, alors là, c'est vraiment pitoyable, pathétique. C'est 0,02% des réserves mondiales. C'est ce qui explique peut-être pourquoi la France a un peu plus de nucléaire que les autres. Alors là, là encore, courte histoire. Bon, en 1950, les 2/3 de notre énergie, et vous voyez à l'époque on n'en utilisait pas tant que ça, venaient du charbon. Et en plus c'était du charbon pour l'essentiel domestique, donc en fait on couvrait nos besoins en énergie aux 2/3 par des ressources domestiques. Et puis pendant toutes ce qu'on appelait les Trente Glorieuses, vous voyez que la consommation d'énergie a cru à qui mieux. Qu'est-ce qui s'est passé ? Dans les années 60, on a fait l'équipement hydraulique. Donc ça, c'est la partie bleue qui soudain devient importante. Bon, mais maintenant, il est fait. Puis on a découvert le gaz de lac. Et avec ça, on a petit à petit créé un réseau de gazoducs qui a permis de supprimer les usines à gaz à la porte de toutes les villes. Il reste encore quelques gazomètres, mais c'est plutôt au niveau des musées maintenant. Et puis, bon, on avait bien commencé un peu de nucléaire, mais sur ce graphique-là, on ne le voit même pas. Qu'est-ce qui s'est passé surtout ? Toute cette croissance-là, eh bien, on l'a faite à partir du pétrole, et du pétrole importé du Moyen-Orient pour l'essentiel, parce qu'il était pas cher. Et tout le monde trouvait ça très bien. Tout le monde a trouvé ça très bien jusqu'en 73. En 73, le pétrole faisait 68% de notre bilan énergétique. Et je vous rappelle, il était importé complètement, si bien que finalement, dans l'autre sens, nous n'avions plus que 22% de notre énergie qui était d'origine domestique. Et tout le monde trouvait ça très bien. Mais il y a eu la guerre du Kippour. Bon, avant, il y avait eu la fondation de l'OPEP, le congrès de Téhéran. Multiplication du prix du pétrole par 2, puis 4, puis encore 2 après en 79. Et d'un coup, cette situation qui semblait très confortable est devenue intolérable. Et on a réagi, on a mis au point un certain nombre de mesures pour essayer de diminuer cette dépendance du pétrole qui, du jour au lendemain, était devenue intolérable. La première chose qu'on a faite, ben d'abord, on a eu une crise économique. Donc, d'un coup, la consommation d'énergie a baissé un peu spontanément. Mais on a mis aussi en œuvre des mesures d'économie d'énergie non négligeables. Et vous voyez que la pente de croissance avant et après 1973 est quand même très différente. Mais si vous regardez mieux, vous voyez que ces économies d'énergie, on les a surtout faites entre 1974 et 1985. Pourquoi 1985 ? C'est le deuxième choc pétrolier, le contre-choc. Et d'un coup, les prix du pétrole se sont effondrés. Et là, ma foi, on a perdu un peu de notre vertu initiale et on s'est remis à consommer un peu plus allègrement. Le charbon a continué à baisser. En revanche, on s'est mis à importer du gaz. Et je dirais que les importations de gaz ont compensé la baisse du charbon. Et donc, finalement, les deux choses qui ont permis de baisser la part de pétrole, ça a été ces politiques d'économie d'énergie et le nucléaire. Et vous voyez qu'on est arrivé dans les années 90 à une nouvelle sorte d'équilibre où vous avez toujours 40% de pétrole. Hein. N'oubliez pas, aujourd'hui quand même en France, c'est toujours le pétrole la source la plus importante d'énergie. Et il est toujours importé à 97%. Vous avez 35% de nucléaire en gros, et puis vous avez 25% du reste, il faut bien que ça fasse 100. Et donc, là vous me permettez une petite remarque. À l'heure actuelle, c'est un petit peu à la mode de dire on a fait trop de nucléaire, il faut diversifier. Bon, je vous rappelle quand même que le nucléaire, c'est ça qui nous a permis de nous diversifier du pétrole, et ça restera vrai encore quelques années. Alors, ça, je vous ai parlé de l'énergie en général. Vous savez que l'électricité, eh bien maintenant, elle n'est plus du tout faite à partir de pétrole. Elle est faite en France pour 75% de nucléaire, pour 15% d'hydraulique. Donc, elle est devenue totalement indépendante du coût des matières premières. Les augmentations récentes du baril de pétrole ont beaucoup inquiété les transporteurs routiers, mais vous n'avez pas vu ça sur votre facture d'électricité. Ça n'a aucun impact. On a découplé les choses. Voilà un petit peu à quoi ça sert. Et j'en viens maintenant à comment ça marche. Alors, je vais vous dire franchement, l'énergie nucléaire aujourd'hui, c'est juste un moyen compliqué de faire bouillir de l'eau pour faire tourner une turbine et faire de l'électricité. En revanche, pour que ce soit économique, il faut que ce soit en grande quantité. Donc vous avez un premier problème, ça marche bien, c'est pas cher, mais il faut que ce soit gros. Et quand j'ai mis sans feu, c'est une autre façon de dire, sans produire de gaz à effet de serre, sans produire de pollution atmosphérique, au moins tant que tout se passe bien, c'est-à-dire en marche normale. Alors je vais peut-être compliquer un tout petit peu le comment ça marche, en vous présentant le schéma d'une centrale, donc comme on en a en France, 58 réacteurs à eau pressurisée. La France a la chance d'avoir eu un programme assez standardisé. Il y a 58 réacteurs qui sont pratiquement les mêmes, simplement ils sont en trois tailles différentes. Donc comment ça se présente ? Eh bien, je vous ai dit que la fission faisait de la chaleur. Ça se produit à l'intérieur de ce qu'on appelle le cœur du réacteur, où sont des assemblages combustibles qu'on verra un peu plus loin. Et cette chaleur est emportée par de l'eau qu'on chauffe aux environs de 300 degrés. C'est-à-dire que pour la maintenir sous forme liquide, il faut que l'ensemble soit sous une pression de l'ordre de 150 atmosphères. Donc vous avez un circuit primaire où vous avez de l'eau qui passe à travers le cœur, qui se réchauffe, et puis qui ensuite se refroidit dans ce qu'on appelle un générateur de vapeur, c'est une espèce de grosse lessiveuse, si vous voulez, ou un chauffe-eau, et le circuit primaire est fermé sur lui-même, l'eau primaire qui connaît le combustible ne connaît pas l'extérieur. Donc je vous ai parlé d'une lessiveuse, donc là vous avez un circuit secondaire d'eau qu'on laisse bouillir, et la vapeur on l'utilise pour faire tourner une turbine. La turbine entraîne un alternateur, ça produit de l'électricité, c'était quand même le but de la manœuvre. Ensuite, on recondense cette eau et le circuit secondaire, lui aussi, est fermé sur lui-même. En revanche, pour pouvoir recondenser l'eau, il faut apporter, j'allais dire, une source froide. Et là, vous avez un circuit tertiaire qui peut être, suivant le cas, soit ouvert, c'est-à-dire directement de l'eau prélevée d'un fleuve et rejetée après, ou une tour à évaporation, comme on en voit, et je vous rassure, d'ailleurs, ça ne crache jamais que de la vapeur, qui suppose encore un quatrième circuit pour faire le refroidissement. Tout ceci est enveloppé dans des espèces de poupées russes qui constituent un peu la sûreté, c'est-à-dire que le combustible où se produisent les réactions de fission, donc où se produisent aussi les fragments radioactifs, est enfermé donc dans des tubes d'alliage de zirconium qui sont de ce diamètre-là, qui constituent la gaine de ces tubes, constitue la première barrière entre les produits radioactifs et nous. Ensuite, je vous ai dit, le circuit primaire est entièrement fermé sur lui-même. Il constitue la deuxième barrière et il est lui-même enfermé dans ces espèces de très grosses enceintes en béton précontraint, où en général elles sont même doubles, c'est-à-dire vous en avez une en béton précontraint à l'intérieur, puis encore une poupée russe de plus, une enceinte de béton armé autour. Et c'est cet ensemble de poupées russes qui constitue les barrières qui nous protègent de la radioactivité. Alors, on va ouvrir un peu les poupées russes les unes après les autres, cette fois-ci en titre d'illustration pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc là, vous avez une photo du site du Buget, donc pas très loin de Lyon, au bord du Rhône, et elle est intéressante pour trois choses. D'abord, vous voyez la dernière, ce qui était la plus moderne, des centrales qu'on a construites dans les années 60 sur un type un peu différent qu'on a appelé la filière française à un moment donné, qui utilisait l'uranium naturel qui était modéré par du graphite et refroidi par du gaz carbonique. Cette centrale que vous voyez au premier plan, qui est maintenant arrêtée, aujourd'hui nous n'avons plus que des réacteurs à eau, faisait à peu près 500 MW. Et vous voyez à la même échelle quatre centrales qui, elles, en font 900. Alors là, vous avez la grosse enceinte où se trouve tout le circuit primaire. Et vous avez à côté un bâtiment où vous avez les turbines et les différents systèmes complémentaires dont vous avez besoin. Ces deux réacteurs-là sont refroidis directement par le Rhône, et ces deux-là sont refroidis par ces grandes tours de refroidissement. Donc vous voyez un petit peu... Alors quand vous comparez la taille d'un réacteur à uranium naturel à la taille d'un réacteur à uranium enrichi, vous comprenez pourquoi on est passé de l'une à l'autre. Évidemment, ceci coûtait plus cher en investissement. Donc on va continuer à ouvrir la poupée russe. Vous avez vu un peu la grosse matryoshka, l'enceinte de confinement. À l'intérieur, donc, vous avez le circuit primaire et notamment la cuve où se trouve le cœur du réacteur, où se trouve le combustible. Alors là, c'est quelque chose qui est en acier de haute résistance, forgé, qui fait à peu près 3 mètres de diamètre, 6 mètres de hauteur, si vous voulez. C'est donc parmi les choses les plus grosses qu'on sache forger, mais en même temps, les tolérances sont à peu près celles de l'industrie horlogère. Donc vous voyez que c'est quand même pas à la portée de tout le monde de faire ce genre de composants. L'épaisseur, suivant les endroits où on se place, entre 20 et 30 cm. L'intérieur étant d'ailleurs revêtu d'acier inoxydable pour protéger tout à fait contre la corrosion de l'eau. L'eau à 300 degrés, c'est plus corrosif que l'eau à température normale. À l'intérieur donc, de cette cuve, j'ouvre encore une poupée russe, vous trouvez le combustible. Alors là, je vous ai dit, le combustible, il se présente comme petite pastille de céramique, un petit peu comme des comprimés d'aspirine, si vous voulez, un peu plus haut quand même, empilés dans des tubes qui ont exactement ce diamètre-là, mais qui font 4 mètres de haut. Et ces tubes eux-mêmes sont fagotés ensemble, comme une espèce de grand fagot de spaghettis. Et ces assemblages sont placés les uns à côté des autres à l'intérieur du cœur et ils sont refroidis par l'eau. Ils leur cèdent les calories de la fission. Alors, les dimensions, vous les voyez en gros, hein, 25 cm sur 25 cm sur 4 mètres. Et ça pèse 500 kg, donc rassurez-vous, il y a un crochet là-haut, il n'est pas en train de... Bon. Alors, un tout petit mot de ce que j'ai appelé le cycle du combustible. Bon, on ne met pas directement le pétrole brut dans le réservoir de sa voiture, hein, le moteur serait assez vite gommé. Il y a toute une phase de raffinage qui est en cours. Eh bien, c'est pareil, on ne met pas directement dans la cuve du réacteur nucléaire du minerai d'uranium. Il y a toute une série d'étapes industrielles à faire pour passer au combustible. Alors, je vous l'ai décrit assez rapidement. D'abord, extraire le minerai d'uranium, ça se fait soit en carrière, soit en souterrain, dans certains cas, par ce qu'on appelle la lixiviation in situ, c'est-à-dire en envoyant de l'acide et en récupérant les jus. L'uranium, c'est un produit qui n'est pas abondant, qui n'est pas rare non plus. C'est pas comme le fer ou l'aluminium, c'est pas non plus comme l'argent ou le platine, c'est un peu entre les deux. Et on le trouve en général à des concentrations pas très grandes, de l'ordre de... Si on trouve 1%, on est déjà très content. Donc la première chose qu'on fait, c'est concentrer ce minerai pour arriver jusqu'à à peu près 80% d'uranium, où à ce moment-là, ça vaut la peine de le transporter. Puis on passe à une opération où on augmente un peu la proportion d'atomes fissiles. Je vous ai dit que dans l'uranium naturel, il n'y en a que moins de 1% qui est directement fissile. Pour que ça marche dans un réacteur à eau, il faut monter à 3 ou 4 ou 4,5. C'est une opération donc qu'on appelle l'enrichissement et qui nécessite d'abord d'être passé de l'uranium solide à l'uranium gazeux par un fluorure. Après ça, donc, on fabrique le combustible d'uranium enrichi, c'est-à-dire qu'on repasse de l'uranium gazeux à ces petites comprimées d'aspirine dont je vous parlais tout à l'heure. Ces éléments combustibles séjournent 4-5 ans à l'intérieur du réacteur pour produire leur énergie. Au bout de ce temps-là, on dit que le combustible est usé, c'est-à-dire qu'il n'est plus en mesure de produire de l'énergie. Ça ne veut pas dire qu'il ne contient plus de matière énergétique, on verra qu'il en contient encore pas mal. Ces matières énergétiques qui restent, eh bien, on les récupère par une opération qu'on appelle le retraitement, et qui, elle, sépare ce qui est récupérable de ce qui ne l'est pas, c'est-à-dire des déchets proprement dit. Donc vous avez, à l'issue du retraitement, des déchets, et on verra ce qu'ils deviennent. Et puis, ces matières, vous pouvez les recycler. Elles sont recyclables, ça ne veut pas dire qu'on les recycle toutes, mais elles sont recyclables. Alors, je vous ai dit, quand un combustible est usé, eh bien, il a encore quand même des matières recyclables. Il a même surtout des matières recyclables. Vous voyez qu'au départ, on lui a mis environ 500 kg d'uranium. Quand il sort de la centrale, il contient encore à peu près 480 kg d'uranium. Puis 5 kg de plutonium, donc matière fissile utilisable, et une vingtaine de kilos, enfin bon, il faut quand même que ça fasse 500 en tout, 15 à 20 kg de déchets proprement dit, donc les fragments de la fission, et puis quelques noyaux encore plus lourds qui se sont produits par des captures parasites. Ce sont ça les résidus ultimes. Et le but du retraitement, eh bien, c'est de séparer le bon grain de livret. J'en viens, si vous voulez, maintenant à la partie avantages et inconvénients. Bon, je vais passer un peu vite sur les avantages parce que vous sentez bien que moi, je suis plutôt pour. Donc, indépendance énergétique, hein, en France, c'est quand même pour ça qu'on l'a fait en 1974. Ressources à long terme, je vous expliquerai pourquoi. Découplage des prix de matières premières, on l'a déjà vu, finalement, la part du coût de l'uranium dans le coût du kilowattheure produit est très faible. Et si le coût de l'uranium varie autant que le pétrole, ça ne change pas, en gros, le coût du kilowattheure, ou pas beaucoup. Protection de l'environnement. Puis aussi, localisation de l'emploi, puisqu'il y a très peu de choses importées. Donc, le kilowattheure nucléaire français, il est produit, il fait des emplois français pour l'essentiel. C'est pas forcément bien vis-à-vis de la mondialisation, mais c'est quand même pas désagréable par ailleurs. Balance des paiements, c'est pareil. On exporte plus du nucléaire qu'on importe d'uranium. Exportation, ben un exemple, au Japon, Kojima, donc ma compagnie, est le deuxième exportateur français, juste après Louis Vuitton, Mouette Hennessy, LVMH. Et on n'est pas loin. Inconvénient quand même. Eh bien, le premier, c'est que pendant toute la période où on était revenu à un faible coût du pétrole, on s'est reposé la question, mais finalement, c'est compliqué. Comme c'est compliqué, il y a un prix. Est-ce que c'est économique? Bon, depuis 1998, je crois qu'on se pose la question de façon moins aiguë, mais vous savez, le prix du pétrole va encore redescendre, puis rebondir. Enfin, on n'a pas fini de jouer au roller coaster. Hein. La peur des radiations, et en particulier le fait qu'il est très difficile de savoir, de mesurer s'il y a un effet des radiations quand elles sont à très faible dose. On sait qu'elles sont dangereuses à forte dose. À faible dose, c'est difficile à savoir, puisqu'on est tellement baigné de radiations naturelles que, ben, on ne fait pas la différence. Mais ça inquiète. La sûreté, et surtout les accidents graves, bien sûr. La gestion des déchets radioactifs, vous verrez qu'on fait beaucoup, mais on ne va pas tout à fait jusqu'au bout. Et puis quelque chose de spécial aussi au nucléaire, qui est la non-prolifération, c'est-à-dire, effectivement, est-ce que oui ou non, le fait de faire du nucléaire civil crée des risques particuliers qu'un certain nombre de gens fassent du nucléaire militaire à côté? Quand je dis militaire, ça peut être aussi terroriste, hein. Alors, un mot sur l'aspect économique, finalement. Est-ce que c'est compétitif? Alors, en général, je montre des données françaises, mais après tout, nul n'est prophète en son pays. Donc, ce soir, je vous montre la dernière étude qui est faite, qui est finlandaise, donc de l'Université technique de La Parenta, et qui montre que, finalement, dès l'instant où une centrale nucléaire qu'on déciderait de construire aujourd'hui, hein, ça c'est il faut savoir que la Finlande est en train d'essayer de prendre une décision pour construire ou non une centrale nucléaire. C'est aujourd'hui le seul pays européen qui se pose la question. Une centrale nucléaire, ça coûte cher en investissement, mais ça coûte pas cher en fonctionnement et surtout très peu cher en combustible. Donc on a intérêt à la faire fonctionner le plus possible. Et bien, dès l'instant où on la fait fonctionner plus de 5 500-6 000 heures par an, si vous ne savez plus par cœur, il y a à peu près 8760 heures dans une année. Hein. Et bien à ce moment-là, le nucléaire, c'est le moins cher que le gaz, moins cher que le charbon, en base. Et pour 8000 heures par an, alors pourquoi 8000 heures? Ben, c'est parce que les Finlandais ont 4 centrales et qu'ils les font fonctionner 8000 heures par an, donc pour eux, c'est un peu le standard. Et bien vous voyez que la différence entre le nucléaire et les autres, exprimée en... Tiens, je ne sais pas pourquoi ça s'est perdu, ça veut dire euro, cette espèce de petit point bizarre. Parce que je me suis mis à la mode. Eh bien, le nucléaire a quand même un avantage assez considérable. En plus, ce sont des coûts secs. C'est-à-dire que quand on compare au charbon et au gaz, on ne prend pas en compte des choses qui vont arriver quand même assez vite, c'est-à-dire des pénalités pour gaz à effet de serre, des taxes sur le carbone. Tout ceci n'est pas pris en compte, alors que je dirais la gestion des déchets nucléaires, elle, est prise en compte. Donc, s'il y a une petite dissymétrie, elle n'est pas faite pour tricher en faveur du nucléaire. Autre illustration tirée d'un rapport qui est donc de 3 experts qui ont rendu un rapport en juillet à M. Jospin. Eh bien, vous voyez que ce que je vous ai dit, les variations de prix du pétrole ont entraîné des variations du prix de l'uranium à peu près pareil. Hein. En 1972, l'uranium se payait environ 7 dollars la livre d'oxyde d'uranium, puisque ça se paye en dollars par livre. Okay. En 1972, 7. En 78, 44. Bon, en 99, 12. Et ben, pendant tout ce temps-là, vous voyez, ça n'a pas eu d'impact mesurable. Le prix du kilowattheure nucléaire est resté à peu près stable. Bon, depuis 85, on ne parle plus de faire de l'électricité avec du pétrole, donc on a arrêté de compter. Et charbon et gaz sont à touche-touche. Donc, le kilowattheure nucléaire est prédictible, il est stable. On n'a pas toujours dit qu'il était le moins cher, mais au moins, il est prédictible. Matière de ressources. Eh bien, vous voyez que, là, c'est une illustration de l'Académie des sciences américaine. Donc, pas susceptible d'être trop nucléophile. Vous voyez que exprimé en termes de ressources absolues, cette fois-ci, ce n'est pas en termes de nombre d'années, hein, parce que quand on s'exprime en termes de nombre d'années de consommation, eh bien, ce qu'on consomme peu, on a beaucoup d'années. Là, c'est en termes absolus. Le charbon est de très loin, aujourd'hui, la plus grosse ressource certaine fossile, comparée au pétrole ou au gaz. Et vous voyez que l'uranium, si on l'utilise uniquement dans les réacteurs d'aujourd'hui, ne serait pas beaucoup, pas bien gros, il serait plus faible que le pétrole conventionnel. En revanche, on sait faire des réacteurs qui l'utilisent beaucoup mieux, et à ce moment-là, l'uranium peut facilement être du niveau du charbon et en fait bien plus, puisque à ce moment-là, le prix devient si, enfin, le prix du kilowattheure devient si indépendant du prix de la matière qu'on peut même utiliser l'uranium de l'eau de mer. Et bon, on cherche même pas à chiffrer les ressources là. À l'extrême droite, par curiosité, je vous ai rajouté des ressources qui sont un peu spéculatives, qui sont les hydrates de méthane, donc ou les clathrates. Ce sont des ressources tout à fait considérables, mais on ne sait pas quand ni comment on les exploitera, ceci étant, en termes de ressources. C'est pour dire, quand on aura utilisé le pétrole pas cher, il y a quand même encore des ressources. La Terre est grosse. Hein. Un mot sur la protection de l'environnement et de la santé. Alors, je ne suis pas médecin, donc je me retranche derrière les spécialistes. Et je vous cite tel quel un avis de l'Académie nationale de médecine qui a été publié en juin dernier, non, en juin 99, et qui dit « Les risques pour la santé de l'utilisation de l'énergie nucléaire doivent être comparés à ceux des autres filières énergétiques. Il convient de rappeler ainsi que le recours à des combustibles fossiles, charbon, pétrole, gaz, a pour inconvénient de produire lors de leur combustion du CO2 qui contribue à l'effet de serre, ainsi que des agents cancérigènes et autres polluants. Dans ce contexte, c'est moi qui ai mis en vert, hein, mais c'est toujours la même phrase, l'utilisation de l'énergie nucléaire apparaît bien comme un des modes de production de l'électricité les moins polluants et ayant le moins d'inconvénients pour la santé. » Je crois que c'est important à savoir. Alors bien sûr, c'est quand il n'y a pas d'accident. Donc vous ne comprendriez pas que je ne vous dise pas un mot de Tchernobyl. Et d'abord, la carte de la contamination de Tchernobyl, donc dressée par les communautés européennes, la contamination en césium-137, qui est ce qu'on mesure le plus. Vous voyez que, localement, ça a été vraiment une catastrophe. Vous voyez que, dans certains pays, en particulier en Suède, qui a été le premier pays arrosé, on a atteint des niveaux qui ne sont pas négligeables. Quand on est jaune, ce n'est pas négligeable. Bon, en France, vous voyez que, bien sûr, ça ne s'est pas arrêté au Rhin. Je ne sais pas qui a sorti cette ânerie-là. Mais d'un autre côté, vous voyez aussi que ça n'a pas été catastrophique. C'est plus à l'est, et c'est plus dans les massifs montagneux, puisque là, les pluies ont plutôt concentré les choses, donc d'où les sangliers de Lorraine ou les lapins du Mercantour, si vous voulez. Mais ça n'a quand même pas eu nulle part de conséquences graves pour la santé. Donc il faut savoir, Tchernobyl, c'est une catastrophe en Bélarus, en Ukraine, en Russie. Bon, en France, ça n'a pas été grand-chose, et donc d'une certaine façon, il ne faut pas s'affoler. C'est peut-être pas su, mais pendant les années, fin des années 50, début des années 60, quand les Américains et les Russes faisaient des tests nucléaires, faisaient sauter des bombes dans l'atmosphère, eh bien, on avait à Paris 10 fois plus de césium-137 que l'année de Tchernobyl, ou l'année d'après, parce que la première année, comme ça a été en avril, ça compte un peu moins. Donc ça a vraiment été pas très important. En revanche, localement, une catastrophe. Et bien sûr, ça nous a amené à repenser la conception même des réacteurs. Avant Tchernobyl, si vous voulez, on disait, bon, ben, on fait le réacteur le mieux qu'on peut en essayant de rendre la probabilité de perte de toutes ces trois barrières dont je vous ai parlé la plus faible possible. Et puis quand on est arrivé à une probabilité très très faible, on est content. Bon, ben, d'abord, les probabilités, ça ne dit rien à personne, sinon on ne jouerait pas au loto. Mais donc c'est pas très convaincant. Donc après Tchernobyl, on s'est dit, ben, on continue ce petit jeu-là, on essaye toujours de réduire la probabilité de fusion, mais malgré tout, on construit les réacteurs de façon que s'il y a une fusion, eh bien, en gros, ça reste dans l'enceinte. Donc ça peut faire fondre tout le cœur peut traverser la cuve que je vous ai montrée, le corium, comme on appelle l'espèce de magma qui en résulte, reste dans l'enceinte, on le refroidit sur place, et donc on n'a pas à évacuer massivement des populations, on n'a pas, pendant des années successives, des terrains agricoles condamnés. J'ai peur presque au bout, donc je me garde tout le reste pour réponse à des questions éventuelles. Un mot quand même sur l'aspect nucléaire, armement. Ben, c'est pas très évident cette question de la non-prolifération, donc je ne vous ferai pas une réponse noir et blanc. Il est certain qu'entre le nucléaire civil et le nucléaire militaire, il y a tout un corps de sciences et de techniques qui est le même. Donc les cerveaux, c'est à peu près les mêmes. C'est certain que l'accès aux matières fissiles du civil peut faire gagner du temps pour faire un programme nucléaire. Mais en général, ce n'est pas non plus exactement les mêmes matières qu'on utilise. En revanche, on peut dire que tout pays qui a envie de faire des bombes n'a pas besoin d'avoir une énergie nucléaire civile. Tous les pays aujourd'hui nucléaires avoués ont fait des armes avant de faire des centrales. Et Israël, l'Irak ont cherché à proliférer sans avoir le moindre kilowattheure nucléaire. Et à l'inverse, le fait de développer l'énergie nucléaire vous fait entrer finalement dans le système international. Vous avez besoin d'exportateurs. Les exportateurs vous mettent des contraintes. Vous êtes obligé d'adhérer au traité de non-prolifération. Vous avez des contrôles de l'Agence internationale de Vienne. Et vous êtes dans un système où ça devient beaucoup, beaucoup plus difficile de proliférer en douceur. Ça se saura. Alors à partir de là, vous dites la belle affaire, si ça se sait, oui, bon, on change de gamme, on remonte à l'Organisation des Nations Unies, c'est un autre jeu. Mais la clandestinité devient à peu près impossible. La meilleure preuve, c'est la Corée du Nord, qui a cru malin en 92 d'adhérer au traité de non-prolifération alors que personne ne l'a forcé. Bon, ben, dans les 6 mois qui suivaient, ils ont eu des inspections. On leur a dit, Amédite, vous avez fait du retraitement, là, vous nous avez dit que vous n'en faisiez pas. Bon, et l'affaire n'est pas encore tout à fait terminée. Enfin, dernier point, il faut savoir que le nucléaire civil, maintenant, sert au désarmement. Et c'est-à-dire qu'on recycle dans le civil les matières qui sont libérées par les traités de réduction des armements stratégiques, matières russes et américaines. On a déjà démilitarisé comme ça de l'uranium très enrichi et on s'apprête à le faire pour du plutonium. Donc, je saute à le bilan. Bon, alors l'énergie nucléaire, c'est récent, hein, je vous ai dit. Les premiers réacteurs, la première fission, c'est en décembre 1942 à Chicago, Enrico Fermi, mais la première production, le premier kilowattheure nucléaire sérieux, c'est en 1955, c'est aussi à peu près la date du lancement du Nautilus, donc ça a 45 ans. Ben, en 45 ans, qu'est-ce qu'on peut dire? Ça dépend si on est optimiste ou pessimiste. Alors, je vais d'abord commencer par être pessimiste. Ben, on en a fait beaucoup moins qu'on pensait. Il y a seulement 25 ans, en 75, quand on imaginait l'an 2000, ben on imaginait 2000 réacteurs sur Terre. Il y en a moins de 400. Enfin, il y en a 400 gigawatts, mettons. Raisonnons comme s'ils étaient tous des réacteurs de 2000 mégawatts comme des petits pains. Donc vous avez un facteur 5 en dessous de ce qu'on espérait. Et c'est ça qui explique d'ailleurs le fait que les surgénérateurs n'ont pas eu le débouché qu'on pouvait penser il y a 25 ans. Mais regardons le côté positif, même si c'est beaucoup moins compensé, on produit quand même chaque année 2400 milliards de kilowattheures à partir d'énergie nucléaire. Et si on ne l'avait pas, eh bien on aurait quand même toujours besoin de cette électricité, il faudrait bien le produire avec autre chose. Si c'était avec du pétrole, eh bien il faudrait 540 millions de tonnes de pétrole, c'est-à-dire il faudrait une autre Arabie Saoudite. Et si c'était avec du charbon, il faudrait 800 millions de tonnes de charbon, du charbon de bonne qualité, hein, pas du lignite. Et si on brûlait 800 millions de tonnes de charbon en plus, ben on enverrait 3 milliards de tonnes de CO2 en plus dans l'atmosphère, ce qui n'arrangerait pas tellement le problème d'effet de serre. Donc, voilà en matière de bilan. Perspectives, eh ben, elles ne sont pas trop bonnes, malheureusement. Parce que je vous ai dit, aujourd'hui, on fait 2400 milliards de kilowattheures. On en faisait 100 en 71, donc ça a été très vite. Mais dans les projections de l'Agence internationale de l'énergie, c'est-à-dire juste extrapolation des tendances actuelles, eh bien, en 2010, on n'en fera pas plus, mais en proportion d'électricité mondiale, on sera descendu de 18 à 12. Incidemment, 2400 milliards de kilowattheures, c'est ce que produisent tous les barrages du monde. Donc aujourd'hui, les réacteurs nucléaires et les barrages produisent exactement la même quantité d'électricité. Et puis, si ça continue sur ces tendances désagréables, eh bien, en 2020, on commencera déjà à baisser, c'est-à-dire que les pays qui continuent à s'équiper de nucléaire ne compenseront plus le retrait des vieux réacteurs dans les pays qui en ont fait depuis plus longtemps. Je vous laisse, à ce stade, tirer vos propres conclusions. J'ai décrit l'éléphant par petits bouts et reconstituez-le.
Merci.
Oui, bonsoir. J'ai trois questions à vous poser. D'abord, vous avez dit que le nucléaire, c'était pas cher. Et on a l'impression qu'il y a quelques subventions d'État et que c'est pas tout à fait clair. Si vous pouvez apporter un éclaircissement là-dessus. Et puis, deuxièmement, concernant les déchets qui restent, ce qui reste des matières qui ont été fissionnées, je ne sais pas comment on dit, enfin les déchets, oui, ceux, ouais, qui ne sont pas recyclables, est-ce qu'ils ne peuvent pas être utilisés, disons, pas dans des centrales, mais dans des choses qui nécessitent peut-être un peu moins d'énergie, je ne sais pas, les voitures ou autre chose. Et la troisième chose, c'est comment vont faire les Allemands, puisqu'ils ont déclaré qu'ils ne voulaient plus faire du nucléaire. Merci.
Bon, la première question, c'est est-ce qu'il y a des subventions ? Non, EDF n'est pas subventionné. EDF fait, vous savez, les 4/5 de son électricité à partir de centrales nucléaires. Et non seulement il n'est pas subventionné, mais il paie des impôts. Et en plus, il subventionne les éoliennes et, dans le cadre du programme EOL. Donc aujourd'hui, non, le nucléaire, je vous ai dit, ce n'est pas dans n'importe quelle condition. C'est quand on fait fonctionner en base. Et quand ce sont des grosses centrales, il est rentable, il n'y a pas de subvention. La réutilisation des déchets, il y en a quelques toutes petites utilisations, par exemple à bord des satellites pour produire du chauffage, quand on est trop loin du soleil en particulier, mais ce n'est pas grand-chose. Donc aujourd'hui, ce qui est déchets est déchets, et donc ce qu'il faut, c'est les gérer en conséquence. Je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais je pourrais répondre à des questions là-dessus. Quant à comment vont faire les Allemands, eh bien, ils vont brûler plus de lignite. Il n'y a pas de mystère. Simplement, on peut dire que quand M. Trittin est arrivé au pouvoir, il avait dit on arrête tout de suite, en gros. Maintenant, à la suite de négociations assez dures, ils disent on arrête dans 20 ans. On peut penser que dans 20 ans, il y aura encore quelques autres élections et qui pourront remettre en cause ce consensus actuel. Mais s'ils ne le remettent pas en cause, eh bien, ils brûleront plus de lignite. Aujourd'hui, il y a un cas précis qui est intéressant, c'est la Suède. La Suède, vous vous rappelez peut-être, en 80, avait fait un référendum. En 80, la Suède avait 6 centrales en marche et 6 centrales en construction. Le résultat du référendum a été, on termine les centrales en construction, mais ce seront les dernières, et de toute façon, on arrête tout en 2010 en commençant en 95. Et puis, ils n'ont pas vraiment commencé en 1995, mais juste en décembre dernier, ils ont arrêté la première de leurs centrales, la plus vieille et la plus petite. Eh bien, ils n'ont pas su par quoi la remplacer, donc ils vont importer de l'électricité du Danemark. Or, le Danemark, en France, on s'imagine que le Danemark fait de l'électricité avec des éoliennes. Ben non, le Danemark fait de l'électricité avec du charbon. Les éoliennes, elles font 3%, 4% de l'électricité du Danemark, pas plus. Et en revanche, il fait beaucoup de charbon. Donc voilà un peu, j'en ai peur, les Allemands, ils feront de la lignite, parce qu'ils en ont beaucoup.
Oui.
Bonjour, monsieur.
Oui, allez-y.
Merci pour votre conférence. J'avais fait remarquer à un précédent conférencier que depuis Enrico Fermi, finalement, qui avait réalisé sa pile en 3 ans, il n'y avait pas de nouvelles sources d'énergie issues de la physique actuelle, de la physique des hautes énergies.
Pas encore.
Est-ce qu'on ne peut pas dire que si savoir c'est pouvoir, ne pas pouvoir c'est ne pas savoir? Autrement dit, seriez-vous prêt à encourager un peu la naissance d'une nouvelle physique qui permettrait peut-être, en bousculant un tout petit peu les dinosaures théoriques actuels, de fournir peut-être de nouvelles pistes pour de nouvelles applications?
Écoutez, vous me flattez, hein. J'ai jamais prétendu être un physicien théorique. Moi, je suis un ingénieur, donc je ne sais pas. Mais je constate effectivement que depuis la fission, on n'a pas trouvé mieux. En revanche, on essaye très très sérieusement sur la fusion, mais c'est très difficile. La physique des plasmas est très difficile, il y a des instabilités. Et chaque année, on fait des progrès, mais chaque année, le but s'écarte à peu près d'autant.
Ce n'est pas peut-être parce que le modèle standard actuel n'est peut-être pas le bon ou trop compliqué pour être utilisable. Quand j'ai fait cette critique à un conférencier du CERN, il m'a dit « Nous, physiciens, nous sommes des consommateurs d'énergie, pas des producteurs ». Je trouve ça un tout petit peu réducteur.
C'était réducteur, oui.
Bien, une question là et une autre là.
Oui, bonjour. J'aurais deux questions qui sont assez complexes. Et pour pouvoir y répondre correctement, j'ai besoin de développer un petit peu, si vous permettez.
Si c'est pas trop long, si, oui.
Vous me dites. Donc j'ai 33 ans, je suis un ancien élève du CNAM, puis un ancien prof chargé de cours au CNAM. J'ai vécu 7 ans en Basse-Normandie-Cotentin, où la présence de la COGEMA et du CEA est importante, du nucléaire en général, avec l'usine EDF de Flamanville, avec la DGA et la construction des sous-marins nucléaires, qui est maintenant à Toulon, mais à l'époque c'était important. Je suis également salarié de la COGEMA, ou en tout cas d'une de ses filiales à 100%. À la fin de mes études, j'ai fait un mémoire sur l'approvisionnement de la France en matières premières, et notamment concernant le pétrole et l'uranium. Je me suis intéressé à la politique étrangère de la France concernant cet approvisionnement, et notamment en ce qui concerne l'Afrique, où je suis né, où j'ai vécu 18 ans. Donc je me suis aperçu que la dictature d'Omar Bongo au Gabon...
Excusez-moi, si vous pouviez poser la question de manière...
Oui.
Alors la question est la suivante. Est-ce que Georges Besse et Michel Barouin sont morts pour s'être opposés à la livraison d'armes d'uranium enrichi par le biais du Gabon et en échange de la libération des otages du Liban? C'est la première question. Et la deuxième question, c'était: est-ce que vous avez été personnellement informé des différentes activités de ces personnes, en rappelant que vous êtes entré au CEA il y a plus de 30 ans?
Ah, écoutez, il se trouve que j'ai connu Georges Besse parce que dans ma carrière, il m'est arrivé d'être pas technicien, mais plutôt technocrate pendant quelques temps. Je n'ai pas la moindre idée de la réponse à votre question. Ça m'étonnerait bien que Madame Ménigon ou autre ait tué Georges Besse pour ça, surtout qu'à l'époque, il n'était plus du tout lié à la COGEMA, il n'était même plus lié à Péchinet, il était à Renault. Donc je pense qu'il a plutôt été tué comme symbole du capitalisme.
S'il vous plaît. Attendez, s'il vous plaît, il y a beaucoup de gens qui veulent poser de questions, donc vous avez posé votre question, vous laissez.
Oui.
D'accord, merci.
Oui, j'ai trois questions.
Allez-y. Là.
Pourquoi l'eau dans le circuit primaire ne doit pas bouillir? Je voulais savoir aussi pourquoi on n'utilise que l'uranium 235 pour la fission et si on peut en utiliser d'autres ou pas. Et enfin, lorsque la fission se produit, est-ce que les gaines dans lesquelles l'uranium s'ouvre pour être en contact avec l'eau, ou est-ce que tout est mélangé dans la cuve, ou comment ça se passe?
Alors, première question, pourquoi est-ce que l'eau ne doit pas bouillir? Parce que dans ce type de réacteur, c'est comme ça qu'on les a dessinés. Au départ, c'était pour qu'ils soient très compacts. Évidemment, la vapeur prend plus de place que l'eau liquide. Mais il y a des réacteurs où on fait bouillir l'eau dans le circuit primaire. Ça s'appelle des réacteurs à eau bouillante. Par exemple, au Japon, il y en a la moitié des réacteurs à eau bouillante par rapport aux réacteurs à eau pressurisés comme les nôtres. Donc, c'est l'art de l'ingénieur. Hein. Le fait de ne pas faire bouillir, c'est plus compact. En revanche, on rajoute un circuit. Donc, il y a du pour et du contre. C'est un peu, à mon avis, bonnet blanc, blanc bonnet. La deuxième question était... Ah bon, je l'oublie. La troisième, c'était: est-ce que les gaines s'ouvrent? Non. Elles restent intactes. Jusqu'au bout. Et dans la réalité, il y a eu extrêmement peu, dans toute l'histoire qu'on a eu quand même depuis 1974, on a fait marcher pas mal de réacteurs à eau, il y a eu très 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 peu de ruptures de gaines. Il y en a eu un certain nombre. Certaines, c'était des erreurs de conception du réacteur. On avait laissé des petits courants transverses qui faisaient vibrer les 4 mètres de haut sur cette épaisseur-là. C'est quelque chose d'assez souple. Donc, bon, mais dans la réalité, aujourd'hui, il n'y en a pratiquement pas. Non, les gaines sont censées rester intactes et dans la réalité, elles le restent. Alors, quelle était la question intermédiaire que j'ai ratée?
Pourquoi est-ce qu'on utilise l'uranium et est-ce qu'on peut en utiliser d'autres?
Bon, l'uranium, on a bien été obligé de commencer par lui parce que c'était le seul qu'on avait dans la nature. Mais vous voyez que déjà, quand on met de l'uranium dans un réacteur, on produit du plutonium. Donc, on utilise aussi le plutonium qu'on a produit sur place. Alors, il y a un autre uranium qui est fissile, c'est l'uranium 233. Il n'existe pas non plus dans la nature, mais on peut le produire par capture dans le thorium 232. Bon, le thorium a l'avantage d'avoir un seul isotope, donc c'est plus simple. Il est fertile, comme l'est l'uranium 238. Il y a beaucoup de thorium dans la nature, il y en a à peu près 3 fois plus que d'uranium. Il est assez radioactif. Un jour ou l'autre, on l'utilisera. Pour l'instant, on ne pouvait pas commencer par lui, parce que lui n'a pas d'isotope fissile. Il n'y avait pas de choix, il fallait commencer par l'uranium.
Oui, là-haut, allez-y.
Oui, bonsoir. Je voudrais qu'on parle des déchets, justement, oui, du traitement et du stockage. Merci.
Bon, alors là, effectivement, vous avez vu que, dans le fond, le nucléaire, c'est un peu la seule alternative réelle aujourd'hui aux fossiles. De toute façon, il faudra un mélange des deux, mais c'est eux qui sont un peu intersubstituables. Et donc, dans les efforts qu'on lance pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, le nucléaire est une des possibilités, pas la seule, mais une des possibilités. Or, il y a beaucoup de gens qui disent, oui, mais comme il fait des déchets radioactifs, c'est échanger la peste contre le choléra. Alors, je voudrais d'abord vous montrer une chose. Les déchets très radioactifs dont on parle, eh bien, on retrouve le facteur 1 million de tout à l'heure. C'est-à-dire qu'ils sont très concentrés. Ce ne sont pas des gros volumes. Donc, on n'a pas choisi de les envoyer comme ça dans les rivières, dans la mer. On a choisi de les concentrer encore plus, de les conditionner, c'est-à-dire de les incorporer à des matrices qu'on espère le moins sensibles à la corrosion, et ensuite de les surveiller et de les entreposer. Il y a 15 ans, je vous aurais dit, et puis de les enfouir sous terre. Vous savez que cette dernière partie n'est toujours pas en marche, ça n'a pas très bien marché. À l'époque, quand on a envoyé l'ANDRA faire des sondages exploratoires, les gens ont dit « Comment des déchets sous mes poulets de Bresse, ça n'a pas la tête ? Allez creuser vos trous ailleurs. » Puis alors ailleurs, c'était les appellations contrôlées Côte du Rhône. Comment vous vous rendez compte ? Les Japonais vont boycotter. Allez faire vos trous ailleurs. Ça s'est plutôt mal passé. En 1990, il y a eu un moratoire là-dessus. Une mission parlementaire a abouti, donc menée par le député du Nord-Christian Bataille, a abouti à une loi qui nous dit « halte au feu pendant 15 ans, continuez la recherche et on décidera du dernier stade, du stade ultime de ce qu'on fait des déchets à ce moment-là. » Et donc on fait des recherches à l'heure actuelle dans plusieurs domaines, mais notamment, bien sûr, dans le domaine du stockage géologique. Alors, en ce qui concerne la comparaison j'essaie de retrouver mon petit truc. Donc, cette loi de 91, un mot, vous voyez qu'elle disait il faut faire des recherches dans trois domaines, la séparation et la transmutation. Pourquoi la transmutation ? Parce que finalement, ce qui inquiète, ce sont la partie des déchets qui sont à vie très longue. Or, il est physiquement possible, en les bombardant avec des neutrons, de les casser en déchets à vie plus courte. Ça veut dire qu'ils sont plus radioactifs, hein, parce que c'est plus la vie est longue, moins c'est radioactif quand même. Bon, donc, première chose, ça s'étudie. On sait que c'est physiquement possible. On ne sait pas si c'est si facile à faire. Deuxièmement, le stockage géologique, donc avec en particulier les essais de labos souterrains, et puis des définitions de conditionnement extrêmement stables pour des entreposages de longue durée. Et tout ceci est évalué année après année par une commission, la Commission nationale d'évaluation, et on revient au Parlement en 2006 pour prendre une décision en fonction du résultat des recherches. Donc on en est là, vous voyez, on a été presque jusqu'au bout, mais la dernière étape de la gestion, on ne la fait pas. Une illustration sur ce qu'est un laboratoire souterrain. Donc à l'heure actuelle, il y a un site qui a été choisi, qui est entre Meuse et Haute-Marne, par là. Une couche d'argile bien stable, à peu près 500 mètres de profondeur. Et on va y faire des galeries pour étudier la façon dont cette argile réagit, par exemple, à la chaleur, s'il garde son eau ou s'il se déshydrate, etc. Donc, première chose. Deuxième chose, eh bien, je vous ai dit, il faut choisir un peu entre l'effet de serre ou les déchets radioactifs. Quand on a dit ça, on a dit, bon, ben, c'est la même chose. C'est quand même assez différent. D'abord, je me focalise sur l'effet de serre parce que j'estime que dans les centrales modernes, les autres problèmes des centrales fossiles qui existent, les émissions de gaz sulfureux, de gaz nitreux, les particules qui contiennent énormément de métaux lourds, etc., bon, on sait les piéger, ça peut être réglé. Je ne dis pas que c'est tout réglé, mais ça peut l'être. De la même façon, les déchets radioactifs ne sont pas à haute activité, ne sont pas tous les déchets. On en fait beaucoup plus qui sont de faible activité, et ceux-là aussi sont réglés. On sait comment les conditionner, on les entrepose au site de l'Aube, c'est un site qui est autorisé et qui peut durer facilement 50 à 100 ans avant d'être saturé. Donc les problèmes non résolus aujourd'hui, c'est bien les gaz à effet de serre en ce qui concerne les fossiles, les déchets radioactifs de haute activité en ce qui concerne le nucléaire. Sachant que haute activité, ils le sont aujourd'hui, ils le seront beaucoup moins dans 1000 ans, parce que la radioactivité, c'est quand même biodégradable, ça a l'avantage de diminuer. Alors qu'est-ce qu'on peut faire comme comparaison ? D'abord, au terme de production, les gaz à effet de serre, ça s'exprime en milliards de tonnes par an. Les déchets de haute activité, ça s'exprime en milliers de tonnes par an. Pas étonnant, c'est toujours le facteur 1 million qu'on a depuis le début. Hein. Je vous rappelle qu'il n'y en a que 5% qui ne sont vraiment pas recyclables. Ça ne veut pas dire qu'on recycle tous les autres. Ils sont relâchés librement alors que les déchets radioactifs sont conditionnés, ils sont confinés, ils sont entreposés et surveillés aujourd'hui. Un risque, ce n'est pas un danger, si vous voulez. Le risque des déchets radioactifs deviendrait un danger si on les laissait s'échapper et si on les oubliait. Ça n'est pas le cas. Le risque associé à l'effet de serre, vous le savez, c'est un risque climatique global. Il touche toute la planète et il est proche. Il est dans 50 ans, dans le siècle, pas plus. Le risque des déchets associés aux déchets radioactifs, il est local. C'est-à-dire, il est effectivement, non pas pour les voisins du site, mais pour leurs arrière-arrière-arrière-arrière-arrière petits-enfants, c'est-à-dire 10 000 ans plus tard, mais local. Et c'est une échéance à très long terme. Je continue le parallèle parce que je crois qu'il est important. Maintenant, quand on essaye de modéliser ce risque, eh bien vous savez que toutes les modélisations qu'on fait sur l'augmentation du relâchement de gaz à effet de serre arrivent à des catastrophes qui commencent par de petites échelles, du genre on perd le Gulf Stream, et qui arrivent à vraiment sérieux, du genre on fond les calottes polaires. Pour les déchets de haute activité, la modélisation qu'on fait, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans 10 000 ans, dans 100 000 ans, eh bien on arrive que grâce à la radioactivité, le fait que ces choses décroissent, quand ils remontent à la surface, quand ils arrivent dans le fond, dans la biosphère, la radioactivité a suffisamment baissé pour que, dit le modèle, il n'y ait pas d'effet sanitaire. Alors, bien sûr, j'ai mis validité dans les deux cas, parce que d'une part, modéliser toute la planète, ce n'est pas facile, donc les modèles climatiques ont leur zone d'incertitude. D'autre part, modéliser 10 000 ans, ce n'est pas facile non plus, il y a des incertitudes. Mais vous voyez que dans un cas, le modèle nous dit on va à la catastrophe, dans l'autre cas, les modèles nous disent si on ne fait pas de bêtises, ce n'est pas catastrophique. Enfin, quelle R&D on fait? Parce qu'on ne reste pas les deux pieds dans le même sabot dans les deux cas. Dans le domaine du CO2, on fait effectivement, on lance, c'est récent mais on lance, toute une recherche et développement pour immobiliser, pour piéger ce CO2 à la sortie des centrales et l'immobiliser. L'immobiliser ben, sous forme de carbonate, sous forme de CO2 liquide, etc. En revanche, ce qu'on en fera finalement de ce truc immobilisé, on ne sait pas vraiment. Là on n'en est même pas au premier stade de l'étude. En particulier, il faudra démontrer que c'est sûr, parce qu'une des choses qui est étudiée, c'est de le mettre sous forme liquide et de l'injecter dans les grands fonds sous-marins. Bon, il faut quand même être sûr qu'un jour de grande tempête, il ne remonte pas. Ce n'est pas aussi idiot que ça en a l'air. Vous savez que dans le lac de Nyos, il y a par volcanisme du CO2 qui s'accumule sous le lac, puis de temps en temps, il lâche une bouffée et c'est pas bon d'être voisin à ce moment-là. Côté déchets de haute activité, eh bien, il y a déjà pas mal de phases qui sont non plus de la recherche et développement, mais à l'étape industrielle. Le retraitement est industriel, la vitrification est industrielle, l'entreposage est industriel. Vous pouvez, n'importe qui, aller à La Hague et demander à aller voir à quoi ça ressemble, des entreposages de déchets vitrifiés. Eh bien, vous irez dans une grande salle et on vous dira, ben voilà, vous marchez sur tous les déchets de haute activité du programme nucléaire français. En revanche, la disposition finale, eh bien, on n'en est qu'au stade de la démonstration. Et en plus, c'est une démonstration qui est très mal acceptée. Vous savez que, notamment l'été dernier, il y a eu une mission pour trouver un deuxième site, pas celui de l'argile qu'on a montré, mais un deuxième site dans le granit. Ils se sont fait chasser de partout, les pauvres. Bon, il y a un problème, hein. Alors, dernier point, et je l'ai déjà mentionné, en ce qui concerne les gaz à effet de serre, donc, soit le problème du coût de la ségrégation, soit le problème de l'impact, donc qui a son coût également, et on dit que ce serait de l'ordre de... Enfin, il y a une grosse fourchette, hein, mais entre 20 et 200 dollars par tonne de carbone évité. Donc, ce n'est pas négligeable. Aujourd'hui, il n'est pas pris en compte, bien sûr, puisqu'on relâche le CO2 et on s'en fiche. Mais le coût de gestion des déchets, eh bien, celui-là, comme il est industriel, il est payé, et le coût ultime, eh bien, pour l'instant, il est provisionné. Donc, il est déjà dans le coût dans votre facture d'EDF. Il est provisionné, ça peut-être qu'on se trompe, peut-être que ce sera un peu plus que ce qu'on croit, mais au moins il est déjà là. Donc vous voyez, c'est pas bonnet blanc et blanc bonnet.
Allez-y.
Oui, bonsoir monsieur. La connaissance de l'atome a conduit à la fabrication de la bombe atomique et donc aussi de l'énergie nucléaire. La connaissance du neutron, on a déjà envisagé la bombe à neutron. Est-ce qu'il est possible d'envisager de la création d'énergie neutronique? Je ne sais pas comment on pourrait appeler ça. Je vous remercie.
Le problème du neutron, c'est que, comme son nom l'indique, il est neutre. C'est-à-dire que ce n'est pas tellement facile de récupérer son énergie. En particulier, si on réussit à faire la fusion, la première façon de faire de la fusion sera de faire réagir du deutérium et du tritium, si vous voulez, donc de l'hydrogène qui a un noyau à 2 nucléons et de l'hydrogène qui a un noyau à 3 nucléons. C'est ceux qui sont les plus faciles à fusionner pour faire de l'hélium. Le problème, c'est que la plupart de l'énergie de la fusion, c'est justement le neutron qui l'emmène. Et ça, ben, ce n'est pas très, très récupérable. En revanche, On l'utilisera pour fabriquer de la matière fusible. Mais en tant qu'énergie, le neutron n'est pas une forme très utilisable.
Dernière question.
Bonjour, monsieur. Votre dernier tableau sur les perspectives n'était pas très encourageant pour le nucléaire et il y avait une baisse un peu de la production des centrales nucléaires. Parce que, justement, vous avez marqué sur la mauvaise acceptation de ce mode d'énergie.
Oui.
Je reviendrai alors justement sur la conférence d'hier où il y avait les piles à combustible. Et le conférencier nous a exposé que là, ces piles à combustible consommaient du combustible, donc de l'oxygène qu'il fallait produire et de l'hydrogène, qu'il fallait produire en particulier par électrolyse de l'eau. Et parmi les divers moyens qu'il avait montrés sur son schéma, il y avait justement les éoliennes un peu capricieuses. Donc, quand les vents sont pas au bon moment, on peut utiliser ça pour faire pour produire de l'électrolyse de l'eau. Et en haut, dans son tableau, il y avait le nucléaire. Mais il n'en a pas parlé. Et donc, je reviens là-dessus, puisque nous pouvons vous avoir là. Et comme vous nous dites que les centrales nucléaires ne peuvent bien marcher qu'en continu, entre 6 et puis 8 000 heures par an, et qu'il y a donc des heures creuses, pourquoi ne pourrait-on pas envisager de coupler ces centrales avec des usines de production d'hydrogène et d'oxygène? Et d'autant plus que si on fait de la prospective, on pourrait peut-être penser qu'on va mettre au point des piles à combustible moins chères, que l'on pourra peut-être mettre dans des moteurs de voiture et ainsi satisfaire tout le monde et les écologistes et avoir des voitures avec un combustible tout à fait propre.
Aujourd'hui, je ne suis pas sûr que ça satisferait beaucoup les écologistes, mais oui, bien sûr, c'est tout à fait possible d'utiliser l'électricité pour faire de l'électrolyse, d'où qu'elle vienne, donc des centrales nucléaires notamment. C'est surtout dans les années... fin des années 70, début des années 80, qu'on a fait des études très sérieuses pour savoir si effectivement, plutôt que de faire marcher les centrales à feu réduit, il ne serait pas plus intelligent de les faire fonctionner tout le temps et de faire de l'électrolyse en heure creuse. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de débouchés pour l'hydrogène, il n'y avait pas de réseau de distribution d'hydrogène, on se méfiait des réservoirs d'hydrogène à bord des voitures. Bref, ça n'a pas été considéré comme économique. Mais c'est très possible et c'est certain. Alors là, pour le coup, c'est certain que si les piles à combustible ont le développement qu'on leur prédit, on se reposera la question parce que le nucléaire se prête extrêmement bien à ça. Alors ça, c'est la première chose. Mais aussi, dans ces années-là, on a étudié d'autres types de réacteurs qui ne sont pas des réacteurs à eau, qui pourraient permettre aussi de faire de l'hydrogène sans avoir à passer par l'intermédiaire de l'électrolyse qui n'a pas un très bon rendement. Ce sera des réacteurs qui marchent à beaucoup plus haute température. C'est un sujet que j'adore, mais je ne crois pas que j'ai le temps de le couvrir.
Merci.